Messieurs, merci de prendre place, s'il vous plaît. Merci de prendre place. Bien, s'il vous plaît, un petit peu de silence. Cette séance de présentation des ateliers traditionnels au mois de septembre, avant le début effectif de la saison, elle est couplée avec une assemblée générale extraordinaire qui va se passer, qui va durer 5 minutes, qui va se passer après la réunion sur les ateliers. L'objet de cette réunion extraordinaire, c'est d'entériner le changement d'adresse qui figure dans nos statuts. Je rappelle qu'il y a 15 jours, nous avons fait une assemblée du même type. Malheureusement, nous n'avons pas atteint le quorum qui est requis dans les statuts, qui est de 50%, mais on a quand même eu 40% de vote, ce qui est quand même exceptionnel pour une association. On se faisait pas beaucoup d'illusions, si vous voulez. On est près de 700 adhérents. Et donc, les statuts prévoient qu'il y a une deuxième phase où il n'y a pas de nécessité de quorum. Donc, il suffit qu'on soit deux. Apparemment, on est plus de deux pour que la décision soit entérinée. Donc, c'est pour ça qu'on vous a distribué des bulletins de vote que vous voudrez bien rendre à la sortie pour dire que vous êtes bien d'accord sur le fait qu'on est déménagé. Voilà. C'est un formalisme qui date de la loi de 1901, j'y peux rien. Comme l'adresse figure dans les statuts, c'est obligatoire et le changement d'adresse doit être entériné par l'Assemblée Générale qui est souveraine dans les associations. C'est pas le président qui commande. Là, pour une décision de modification de statut, seule l'Assemblée Générale est souveraine. Bien. Donc, nous allons présenter les différents, ce qu'on appelle les ateliers, les activités complémentaires, qui sont variées et nombreuses, et donc nous avons demandé aux animateurs de ces différentes activités de venir, et donc moi je vais simplement annoncer les différents ateliers, et chaque animateur une personne qui participait à ces ateliers l'année précédente donnera un témoignage sur la façon dont ça se passe, c'est toujours intéressant. Et puis, dans certains cas, l'animateur n'est pas disponible. Eh bien, c'est justement un de ses anciens élèves ou de ses élèves qui viendra présenter l'atelier. Donc, on y va. Alors, pour des raisons... je me mets en plein... Hein, voilà. Donc, je rappelle les activités complémentaires. Le mot complémentaire dit bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que historiquement, ça n'était pas l'activité de l'UTB. L'UTB organise des conférences culturelles. Et d'année en année, on a eu des demandes de tel ou tel pour faire des choses complémentaires, des ateliers de langue, d'informatique, des groupes d'études divers et variés. On va tous les passer en revue. Et donc, tout ça, ça s'est mis en place, pas du fait vraiment de l'équipe qui animait l'UTB, mais du fait de demandes récurrentes des uns et des autres. Et on a essayé de le mettre en place. Et on s'est rendu compte d'ailleurs que ça nous apportait un complément d'adhésion, puisque certaines personnes ne font des activités à l'UTB que dans des ateliers. Voilà. Alors, les ateliers, la différence avec les conférences, eh bien évidemment c'est plus convivial, puisque c'est des groupes de plus petite taille, et il y a une certaine amitié qui se crée, et donc ça fait un lien social qui est quand même largement un début de la vie associative. Alors, voilà le listing très rapide, donc informatique, anglais, conversation anglaise, allemand, espagnol, italien, chinois. Ça, ce sont les langues. Ensuite, art plastique, histoire de l'art, œnologie, atelier d'écriture, la dictée d'autrefois, Wikipédia. Et ensuite, groupe lecture, littérature, patrimoine écrit de Bourgogne, économie et géopolitique, éthique et société, marche et voyage culturel. Vous voyez que le menu est copieux. Alors, pour des raisons, disons, parce que là, j'ai pris Internet sur mon téléphone portable, puisque on n'a pas encore Internet dans les salles municipales. Donc, et ma batterie commence à flageoler. Donc, Madame Shaw m'a demandé à montrer des réalisations de son atelier. Et donc, je vais chanter. Alors, je vais. Voilà. Je l'ai perdu. Voilà, ça y est. Donc, Madame Shaw, expliquez. Alors, vous prenez le micro ici et vous faites votre petit baratin pour... Voilà, le micro, voilà. Vous parlez dedans.
Oui, oui, oui. Donc, bonjour, messieurs, mesdames. Je me représente, donc Josette Shaw, et je donne des cours d'art plastique depuis maintenant de nombreuses années à l'UTB, ainsi que dans... J'ai travaillé dans pas mal d'organismes à l'extérieur. Et donc les cours, pour les personnes qui venaient avant, je signale que l'adresse a changé. Avant, nous étions à ma dépannage 9 rue du Parc et maintenant nous sommes 10 places de la République, parce que l'avantage, c'est que nous avons un ascenseur qui va jusqu'au bout. Avant, c'était inter-étage. Donc là, quand les gens qui seront intéressés rentreront dans le hall, ils vont face aux boîtes aux lettres, ils tournent à gauche et là, il y a un ascenseur. Donc au premier étage. Donc les cours sont pour les débutants comme pour les personnes confirmées, étant donné que moi j'ai un groupe qui me suit depuis, je crois, 9 ou 10 ans. Et j'ai encore des gens qui prennent, qui sont débutants, et ça ne pose pas de problème de mélanger... le niveau des personnes. Étant donné que nous travaillions beaucoup par copie et que c'était plus ou moins en relation avec les cours d'histoire de l'art, étant donné que les gens après me demandent aussi personnellement ce qu'ils veulent faire, parce qu'il faut forcément en peinture, on a plus d'affinité avec un certain style plutôt qu'un autre. Donc, je vous invite à venir découvrir cet atelier. On peut commencer en faisant que du dessin, du fusain, et aller vers la peinture pour les gens qui seraient intéressés. Donc, les cours auront lieu toujours le mardi matin de 10h à 12h. Et là, avec le 1er novembre, nous commencerons le 8 novembre. Premier stage, 8 novembre. Donc, c'est toujours 4 fois 2 heures. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire, mais surtout n'ayez pas peur de commencer les arts plastiques, étant donné que moi j'ai eu des élèves qui me disaient j'y arriverai jamais, et quand je vois maintenant où ils en sont, il faut surtout pas se décourager. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci.
Donc je montre ici sur le site internet, donc je vous montre où ça se trouve, dans groupe et atelier, donc sur le site, et vous allez dans arts plastiques, et vous avez... des photos, des réalisations des uns et des autres. Alors, donc vous avez des petites vignettes et on peut même, en cliquant dessus, voir, voilà ce que font les élèves de Madame Shaw. Alors, est-ce que c'est Madame Shaw qui permet d'atteindre cette qualité? Certainement, hein. Soit les élèves qui ont des qualités propres au dessin, si vous voulez. C'est au crayon, ça? C'est au crayon de couleur? C'est de la peinture, ça?
Je pense que moi, ce que j'apporte surtout aux gens, c'est que j'ai fait les Beaux-Arts de Paris. Et les Beaux-Arts de Paris, c'était de massacrer les gens en permanence, surtout qu'ils n'aient pas confiance en eux. C'était tout le temps une relation de pouvoir et c'est quelque chose que j'ai strictement refusé dans mes cours. Les élèves ne se critiquent pas entre eux, jamais. Et il y a aussi tout le temps cette démarche de... C'est une démarche qui est vraiment aimable, je veux dire, c'est pas du tout esprit beaux-arts, puisque moi, c'est ce dont j'ai le plus souffert. Donc, vous allez voir des œuvres, certaines œuvres, les gens étaient, enfin, ils sont tous débutants là, à l'origine. Tous les gens qui sont passés chez moi étaient débutants. Et je me dis que maintenant, vu où ils en sont, c'est vraiment accessible à tout le monde. Voilà.
Voilà, c'est des débutants qui ont quand même des aptitudes, manifestement, quand vous voyez cette peinture-là. Non, 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 non.
Non, 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 faut pas croire que... Je pense qu'on a tous un côté un peu artiste en soi, et si on a confiance, Si le professeur vous donne la confiance, chacun peut y arriver. Bon, évidemment, c'est de la copie. On n'est pas des artistes à se dire, mes élèves ne sont pas des artistes en partant de la feuille blanche en se disant, je suis impressionniste ou n'importe quoi, enfin n'importe quel style. Je veux dire, mais déjà par la copie, ils apprennent à reconnaître des couleurs, à voir la circulation de la lumière, à comprendre une composition. Et après, bon, on a été travailler dans la nature, on a fait plein de choses. Mais c'est une démarche, en fait. Parce que j'ai aussi un autre atelier et j'arrive au même résultat. Et les gens n'arrivent pas en se disant, je sais dessiner. Moi, ils arrivent, ils me disent, je ne sais pas dessiner. Ben, j'ai dit, oui, bon, on va apprendre. Hein. Le but, c'est ça. Le but, c'est d'apprendre.
Bien, merci, Madame Chaud. Donc, on va passer... je vais débrancher mon téléphone, sinon, je n'aurai plus de téléphone. Les miracles de la technique, voilà, ça permet de se dépanner. Bien, donc on reprend le cours de l'exposé. Voilà. Alors, atelier d'histoire de l'art. Alors c'est Mathieu Pinette qui nous fait cet atelier. Et j'ai oublié de prendre le papier, voilà. Et donc, il est très pris au château de Germolles, comme vous le savez, dans ses diverses activités pour animer son château. Et donc, il propose 3 cycles, comme les années précédentes, de 5 séances. Et ça vaut 30 euros par cycle. Et c'est des séances qui se passent au lycée Émile Angotet, c'est-à-dire ce qu'on appelait dans le temps le Bahut, hein. Dans une salle qui est spécialement équipée avec un vidéoprojecteur et un écran qui va bien. Voilà. Alors, premier cycle, ce sont ben, les peintres flamands et hollandais hein, au 16e et 18, du 16e au 18e siècle. Alors là, vous les connaissez tous, ça sera l'occasion de se régaler. Alors, je rappelle que le principe de ces ateliers, c'est d'être interactif avec les participants. C'est-à-dire, c'est pas une conférence, une mini-conférence, c'est, on vous présente des œuvres, ils demandent, est-ce que vous savez quel est l'auteur, qu'est-ce que vous pensez de telle œuvre, etc., etc. Donc, c'est une analyse faite en groupe par le public. Alors, le deuxième cycle, c'est l'art d'aujourd'hui, une approche critique et historique. Alors, l'art d'aujourd'hui, il avait déjà fait un cycle sur l'art moderne qui avait été très apprécié pour ceux qui y étaient allés, parce que ça avait été un petit peu une découverte. Si vous voulez, le foisonnement actuel des écoles artistiques est tel qu'on est un petit peu perdu. Et si vous allez un peu sur Internet et vous suivez ce qui est produit... la variété est infinie. C'est impossible de s'y retrouver. Aujourd'hui, la notion d'école telle qu'elle était jusqu'au milieu du XXe siècle, c'est quelque chose qui a complètement explosé et c'est très difficile de s'y retrouver dans toutes ces tendances. Donc, ce qu'il nous propose, c'est d'essayer de faire une tentative de tri au milieu de tout ce qui se produit, puisque on a d'une part la multiplication des techniques, la multiplication des sensibilités artistiques, et également la diffusion très facile avec Internet de toutes les œuvres. Hein. Des sites où il n'y a que des photos d'œuvres artistiques, il y en a des dizaines et des dizaines, c'est pas difficile à trouver. Et le troisième cycle, le sens des couleurs. Alors ça c'est intéressant aussi, puisque il y a beaucoup de débats artistico-philosophique sur la signification symbolique des couleurs, la perception des couleurs, etc., etc. Donc, il va essayer de vous faire réagir par rapport à ça. Donc, tous ceux qui vont à ces ateliers, est-ce qu'il y en a qui participent à ces ateliers de Mathieu Pinette ? Oui, quand même quelques-uns. Donc, moi, j'y vais pas, donc j'en parle en non-connaissance de cause, parce que j'ai pas le temps d'y aller, c'est pas que j'aurais pas envie. Mais on a des retours très positifs de la façon dont ça se passe et vraiment c'est tout à fait interactif et convivial. Donc, et en plus on a fait un tarif, si vous voulez, qui est attractif, si vous voulez. Le module de 5 séances fait 30 euros, donc il n'y a pas la barrière du prix, si vous voulez, qui est dissuasive. Alors, ça se passe bien sûr l'hiver. Donc, pourquoi ? Tout simplement parce que Mathieu Pinette n'est pas disponible pendant la belle saison puisqu'il s'occupe de son château. Donc, on se coince entre la fin de la saison du château et le début de la saison suivante. Hein. Et il ne faut pas louper de séance. Voilà. Donc, en principe, c'est le jeudi à 17h. À 17h, au lycée Émile Angotet. Dans une salle qui est maintenant au rez-de-chaussée, puisqu'on avait des personnes qui avaient des difficultés de mobilité, et effectivement la première salle était au deuxième étage avec des escaliers très raides. Maintenant on a trouvé une salle qui est un peu plus petite, mais qui est au rez-de-chaussée, mais qui convient très bien. Voilà. Atelier d'écriture. Alors, oui, une question, oui. Oui. On trouvera, parce que pour le moment, si vous voulez, on est en pleine réorganisation de notre planning d'atelier. Une des raisons, c'est notre déménagement, puisqu'on bénéficie maintenant de deux salles de réunion dans nos nouveaux locaux, alors qu'on n'en avait qu'une avant. Donc on essaye d'utiliser au maximum les salles qui sont dans nos locaux. Donc il faut rebattre toutes les cartes, si vous voulez, sur le planning d'installation. Il y a aussi les contraintes de disponibilité des différents animateurs. On n'a pas tout mis chez nous, mais on a rapatrié une partie des ateliers qui étaient à l'extérieur, on les a rapatriés chez nous. Donc tout cet réaménagement devrait être finalisé et vous sera annoncé d'une part dans le bulletin du mois d'octobre et deuxièmement sur le site, et on va repiquer les informations sur le site. C'est-à-dire vous allez dans différents ateliers et vous voyez quelle est la date et le lieu. Oui ? Oui, le nombre est limité. Bien, si vous voulez, c'est 40 personnes, grand maximum. 35-40 personnes. Mais jusqu'à présent, c'est à peu près la jauge de ce qu'on avait. Hein. Voilà. Alors, les inscriptions, j'en parlerai tout à fait à la fin. Les inscriptions, c'est à partir du mois d'octobre. Et je vous expliquerai comment on fait, effectivement, parce que c'est un peu la pagaille tous les ans. D'abord, qui n'est pas encore inscrit à l'UTB dans la salle ? Non, mais bon, vous êtes des anciennes, mais qui n'est jamais venu à l'UTB ? Quand même, voilà, une dizaine, voilà. Donc, c'est surtout pour ceux-là qui n'ont pas la pratique de la... Donc, je vous donnerai tout à fait à la fin de l'exposé, je vous expliquerai comment il faut procéder, hein, parce que c'est un peu compliqué. Enfin, voilà, atelier d'écriture, Marie-Annick Fargex, donc, qui avait débuté cette activité il y a quelques années au sein de l'UTB. Après, elle a vogué vers d'autres cieux et d'autres activités qu'elle a toujours d'ailleurs, puisqu'elle est guide conférencière au service du patrimoine de la ville de Chalon. Mais elle a accepté. Alors la dame qui nous faisait l'atelier d'écriture, c'est Maya, et elle a souhaité laisser cette activité. Donc, on a resollicité Marie-Annick pour dire, engagez-vous, et elle a accepté. Donc, elle va vous expliquer. Comment elle voit la chose. Voilà.
Oui, bonjour. Alors, à l'époque, c'est vrai qu'il s'agissait plutôt d'une écriture autobiographique, hein, mémoire personnelle, etc. Alors que là, ça concerne davantage une écriture littéraire, de création, de travail sur les mots, sur les phrases. Alors bon, je prends un peu le train en marche, hein, donc je vais pas vous parler de l'avenir parce que je pense qu'il va se décider de façon collégiale au sein de cet atelier au cours de la première réunion, j'imagine. Mais j'ai eu vent du fait que cet atelier est très productif et ils ont déjà publié avec talent un recueil de nouvelles qui m'a paru.
Très bien.
Oui.
Je le dis devant certains auteurs.
Ce que j'en ai lu, oui, enfin, je veux pas flatter les auteurs qui sont ici parce que je ne les connais pas, donc. Mais et apparemment, il y a un autre ouvrage en publication, et là, ils se sont attaqués à quelque chose de difficile, puisqu'ils ont écrit un roman en commun. Donc voilà, on voit qu'ils sont courageux, qu'ils n'hésitent pas à s'attaquer à l'Annapurna de la littérature. Donc c'est très bien. Donc je tremble un peu. Voilà, le principe de l'atelier d'écriture, surtout, c'est d'écrire un petit peu chacun de son côté, et puis de se retrouver pour se lire mutuellement ce qu'on a produit. Et donc, bien l'intérêt, c'est que les remarques des uns et des autres enrichissent la créativité de chacun. C'est un petit peu le principe. Et l'animateur est là, eh bien, pour dynamiser ou calmer, ou enfin, il est là un petit peu comme modérateur. Et puis aussi, pour donner quelques conseils de temps en temps quand ça s'avère indispensable. Voilà. Donc, j'espère que cet atelier prospérera, et voilà, je vous souhaite à tous une année studieuse et passionnée et créative.
Voilà, merci Marie-Annick. Alors, vous pouvez prendre des notes, mais tout ce que je vous montre là, je le mettrai bien sûr sur le site, donc tous les détails, les horaires, les tarifs, les modalités pratiques, vous pourrez les retrouver sur le site internet. Alors, atelier d'œnologie. Donc, Monsieur Philippe Stroel est dans sa cave, donc il n'a pas pu venir, et donc il a envoyé une de ses collaboratrices qui va nous parler de sa proposition. Voilà.
Donc, bonjour à tous. Donc moi, je suis donc Stéphanie Charrier. Effectivement, je suis la seule collaboratrice de Monsieur Stroel, puisqu'on est deux. Donc je représente Rob Grenat, que certains connaissent déjà. Donc nous sommes cavistes à Givry. Et il y a deux ans, il y a déjà, je pense, plusieurs années. Que Philippe Stroel animait des ateliers dégustation. Et puis donc on continue dans cette lancée sur les dégustations. Et cette année, on va vous proposer des choses un petit peu différentes. Donc nous, c'est vraiment la découverte donc des vignobles, la découverte des vignerons, des particularités des cépages, des terroirs également. Donc voilà, et puis une partie bien sûr beaucoup plus fun avec la dégustation, évidemment. Donc cette année, on va vous proposer donc les vins de Corse, les crus du Beaujolais, les vins du Sud-Ouest, les vins d'Espagne et les côtes du Rhône septentrional. Donc au départ, on va vous présenter donc le vignoble, le terroir, etc. Et puis donc on va aller petit à petit vers la dégustation avec vraiment, on déguste sur la base de vins qui sont vraiment différents, des différents cépages. Ici, bien sûr, on a le Pinot Noir, le Chardonnay, etc. Mais là, on va vraiment aller sur des choses qui sont, pour certaines, presque inconnues. Alors cette année, donc les vins de Corse. Je vous présente brièvement quand même ce qu'on va vous faire faire. Donc la Corse. Alors la Corse, c'est des vins vraiment très étonnants, avec des cépages très originaux, que ce soit pour les rouges ou les blancs. Des cépages assez corpulents, assez flamboyants aussi. Et puis des blancs qui sont très gourmands. On a aussi un muscat qui est très sympa. Alors la deuxième session, ce sera les crus du Beaujolais. Alors on insiste sur le Beaujolais, parce qu'aujourd'hui, ils sont des vins absolument extraordinaires. 2014 et 2015 sont des millésimes juste magnifiques. Et donc on a des vins qui sont loin de l'image du Beaujolais village. Voilà, ça a été vraiment galvaudé. Aujourd'hui, on a des très très beaux vins. Voilà, donc session 3, les vins du Sud-Ouest. Donc ça aussi, des cépages très étonnants, comme le petit manzing, la négrette, l'âne de l'aile. Ah, voilà, c'est des noms qui vous disent peut-être rien, mais c'est très intéressant, et c'est des vins qui sont pas aussi puissants qu'on le dit non plus. Il y a des choses très fines. Alors ensuite, la nouveauté, voilà, ça va être aussi les vins d'Espagne, parce que on a vraiment voulu s'intéresser à d'autres régions et d'autres pays, et donc l'Espagne est arrivée un peu en tête, et on a voulu découvrir un petit peu ces vins. C'est quand même le troisième producteur mondial de vins, l'Espagne, et donc on a des cépages très différents, comme le Graciano, le Tempranillo, bon, bref, rouge, blanc. Donc voilà, vignoble peu connu. Et le dernier, donc les côtes du Rhône septentrional, donc les côtes du Rhône du Nord, hein, avec des vins connus comme les côtes rôties, les Saint-Joseph, les Condrieux, voilà, ça donne l'eau à la bouche, avec des cépages intéressants comme le Viognier, la Roussanne, la Marsanne et la Syrah pour le rouge. Voilà, alors. Donc l'année dernière, effectivement, ça n'avait pas pu avoir lieu, parce que la seule chose, c'est qu'il faut qu'il y ait un minimum de 10 personnes. Voilà, pour réaliser les sessions. Donc c'était un petit peu dommage, mais bon, c'était comme ça. Donc notre lieu, c'est donc à Givry, c'est Place de l'Église. La session dure 2 heures. Il y a 5 sessions dans l'année, donc ça commence au mois de novembre, le 17 novembre, mais on vous mettra donc bien sûr tous les horaires. Et qu'est-ce que j'ai pas dit ? Donc de 10h à midi, voilà, tous les jeudis, enfin les jeudis, une fois par mois, de 10h à midi. Donc 5 sessions et c'est 90 euros pour les 5 sessions. Voilà.
Bien, merci beaucoup. Donc on enchaîne parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc atelier Wikipédia. Alors, c'est moi qui anime cet atelier puisque je l'ai créé de toutes pièces. Alors, quelle idée saugrenue de faire un atelier Wikipédia ? Eh bien, tout simplement parce que, en essayant, vous savez que le principe de Wikipédia, c'est que chacun a le potentiel et la possibilité de créer, de modifier des fiches Wikipédia. Je rappelle qu'en Wikipédia français, il y a maintenant plus d'1,5 million pages de Wikipédia en français, hein. Et donc on a vu que que si on fait ça d'une façon très épisodique, eh bien on se perd vite dans les arcanes du fonctionnement du système. Et donc c'est toujours intéressant de travailler ensemble pour apprendre en commun, si vous voulez, puisque le mode d'emploi est bien sûr à l'intérieur de Wikipédia lui-même, c'est Wikipédia, ça se mord avec eux, hein. Et donc on a déjà réussi ensemble à faire, parce qu'on fait des exercices en fait, on prend des fiches, et sur quoi on travaille, et quel est le point d'entrée dans Wikipédia pour l'UTB, eh bien ce sont les ouvrages d'histoire locale que l'on a produits, où on apporte des compléments à des fiches qui n'existent pas ou qui existent et qui demandent des compléments et des modifications. Et donc, on apprend tous ensemble à faire tout ça. Voilà. Alors ça, il y a 4 ou 5 personnes. Chacun vient avec son portable pour pouvoir retravailler après chez lui. Et puis, on travaille ensemble d'une façon interactive. Voilà, c'est sympa. Et tout le monde, enfin... Et c'est gratuit, donc c'est pas fatigant. Voilà. Donc, vous êtes les bienvenus si ça vous intéresse. L'intérêt du Wikipédia, c'est qu'il faut être déjà un utilisateur relativement important, parce que sinon, ça, faire du Wikipédia, ça n'a pas d'intérêt si vous n'en servez pas. Hein. Alors, pour ceux qui sont intéressés par ça, vous pouvez écouter, j'ai fait une conférence sur l'histoire et le fonctionnement de Wikipédia. C'est pas inutile de réviser ça, si vous voulez, avant de venir à l'atelier Wikipédia, parce que c'est un peu la face visible de l'iceberg, mais l'iceberg, il a une grosse face cachée qui est d'une complexité étonnante. Une chose qui est extraordinaire dans ce système, c'est que ça ne fonctionne que par des dons. Et en plus, il y a maintenant, je crois, 30 millions de pages en tout sur le Wikipédia, et il y a 173 personnes employées c'est une association, hein, Wikipédia, à but non lucratif pour le monde entier. Tout le reste, c'est du bénévolat. C'est les gens qui font le boulot, hein, gratuitement. Donc la seule chose qu'on paye, c'est les ordinateurs, les réseaux et la maintenance informatique du système. Eh bien, on s'aperçoit que 90% des tâches qui sont faites par ce qu'on appelle des robots. Ça ferait un peu, c'est pas des petits bonshommes avec des yeux qui clignotent, hein. Ce sont des programmes informatiques. Par exemple, la correction orthographique, la correction grammaticale et donc on va la mettre au chômage, Liliane. On va l'embaucher comme robot à Wikipédia. Voilà. Eh bien, vous faites une fiche, j'ai déjà constaté plusieurs fois la chose, vous faites une fiche, et dans les 10 minutes qui suivent, il y a des modifications. Vous dites, mais vraiment, il y a un couillon qui est en train de regarder ce que je fais au milieu de millions de pages et qui est en train de traficoter. Alors, ça va toujours, au moins au début, ça va toujours dans le bon sens. Par exemple, ça vous met un petit tableau sur le côté, vous faites une biographie, c'est que du texte, et dans les 10 minutes qui suivent, vous avez un petit tableau qui apparaît sur le côté avec la tête du gars, sa date de naissance, son lieu de naissance, sa date de mort, son lieu de mort. Et tout ça, quand vous grattez bien, c'est un robot qui l'a fait. Parce qu'il a analysé votre texte en découvrant les informations qui étaient dedans. Donc, on vous explique tout ça dans l'atelier Wikipédia. Voilà. Allez, j'arrête. Il y a trop de choses à dire. Voilà. Alors, ensuite, informatique. Ah, nous faisons des ateliers d'informatique, comme tout le monde, depuis que l'informatique est arrivée chez les particuliers. Voilà des thématiques un peu standards, si vous voulez, mais l'expérience a montré au fur et à mesure des années que la pratique des uns et des autres s'améliore, et donc le succès ou l'affluence à ces ateliers diminue. Et les gens recherchent plutôt des choses plus pointues, plus spécifiques par rapport à leurs besoins propres. Alors, ce que l'on fait depuis quelques années, c'est d'essayer d'adapter les groupes à ce que les gens souhaitent, les gens qui s'inscrivent. Hein. Alors, effectivement, la difficulté, c'est l'histoire de la poule et de l'œuf, parce que les gens disent, ben moi, je voudrais faire l'informatique, mais qu'est-ce que vous voulez faire en informatique? Donc, il faut, ça se boucle, ça se mord un peu la queue aussi. Alors, on va tenter une nouvelle formule cette année, qui est la formule suivante. Donc, vous vous inscrivez, j'ai envie de faire de l'informatique. Pour le moment, on ne paye pas. Donc, vous dites, je vais faire de l'informatique, ou je veux faire de la bureautique, vous dites des choses un peu à caractère général. Et ensuite, je vais faire une espèce de conférence-débat, ça va être le 7 novembre, et je vais vous dire comment il faut voir l'informatique personnelle. Quelles sont les questions qu'il faut que vous vous posiez? Pas les réponses, ce sera donné dans les ateliers. Mais quelles sont les questions qu'il faut que vous posiez? Et souvent, l'essentiel des questions, ce sont des questions méthodologiques. C'est-à-dire, c'est comme apprendre à faire un roman en ayant le petit Larousse, si vous voulez. Ce qu'on vous apprend dans les cours d'informatique, c'est la façon, vous cliquez là, quand vous cliquez là, ça fait ça, quand vous cliquez là, ça fait ça. Il faut savoir ça, bien sûr. Mais ça ne vous apprend pas une méthode générale d'utilisation de l'informatique. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez faire avec l'informatique? Vous voulez gérer vos recettes de cuisine, vous voulez aller sur Internet, vous voulez faire de la messagerie, vous voulez faire des réseaux sociaux, vous voulez faire un site Internet. La variété des objectifs des uns et des autres, elle est infinie. Il faut déjà se poser ce type de questions, et ensuite, avoir une méthode de travail. Un de mes grands dadas, c'est le plan de classement. Si vous voulez faire de l'informatique à la maison, il faut que vous ayez un plan de classement. Et en général, les gens commencent par faire un peu tout et n'importe quoi. On met tout en vrac dans la machine et au bout d'un moment, on ne retrouve plus rien. Donc, il faut une certaine méthode. Donc, je vous expliquerai un petit peu toutes ces thématiques lors de cette réunion, qui est une conférence, si vous voulez, on va dire, une conférence, mais avec une interactivité. Ça se passera à l'IUT parce qu'il faut que j'ai Internet, bien sûr. Et ensuite, les gens qui veulent vraiment... Là. On causera après. C'est valable pour Mac ou PC, c'est une bonne question, parce que, si vous voulez, on utilise les étudiants de l'IUT. Alors, seuls les étudiants qui font la licence TAIS, image et son, ont l'habitude de travailler sur Mac. Donc, si vous avez un besoin spécifique pour Mac, ben, vous le manifestez au moment où vous inscrivez, et on pourra essayer de faire un groupe basé sur le Mac. Il y a une salle. Les ateliers se passent à l'IUT et il y a une salle qui est équipée de Mac. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait cette conférence générale, et donc s'il y a encore des gens qui ont envie de faire de l'informatique personnelle, après mon laïus, On fait une réunion comme on faisait avant, directement avec moi-même et les animateurs, les jeunes qui vont animer les ateliers, pour se mettre d'accord sur les dates, les heures, les salles, etc. Hein. Donc voilà, c'est tout. Donc inscription d'abord, une réunion générale, et venez nombreux, parce que je pense que même pour ceux qui font bien de l'informatique personnelle, ils vont être surpris de ce que je vais leur raconter. Hein. C'est pas pour me faire de la pub, mais disons, venez, c'est le moment de vous passer un certain nombre de messages. Voilà. Voilà. Donc je passe vite. Atelier de langue. Alors, comme tous les ateliers, mais en particulier les ateliers de langue, les ateliers de langue n'ont lieu que s'il y a un nombre suffisant d'adhérents. Alors, on a mis un seuil qui, en général, qui est bas, c'est de 6 personnes. On a calculé les tarifs sur 6 personnes, de telle manière que, d'abord, le groupe soit de taille humaine. Si vous voulez, c'est notre différence essentielle avec l'université populaire, qui fait aussi beaucoup de cours de langue, qui est dans une logique qui est plus scolaire. Nous, on essaye de faire une logique qui est plus interactive avec l'animateur. Alors, pourquoi on a un nombre minimum? Tout simplement parce qu'on rémunère l'animateur. J'en vois un là qui nous réclame souvent, dire « vous m'avez pas payé, mais on vous paye toujours, jusqu'à présent hein, ». Voilà. Voilà, et donc si le tarif peut poser des problèmes de trésorerie pour certaines personnes, eh bien sûr, on accepte des paiements en plusieurs épisodes. Alors, Michael, it's up to you now.
Cette fois, j'ai apporté un papier.
Oui, prenez le micro aussi. Parce que on va vous enregistrer dans la boîte là. Oui, mais le magnétophone ne vous entend pas. Le magnétophone ne vous entend pas. Prenez le micro. Voilà. Ça a l'air de vous faire peur. Non, mais il n'y a pas de bouton. Vous parlez dedans. Parlez.
Non,
il veut pas.
Je
non, mais on veut vous entendre dans l'enregistrement.
Vraiment ?
Oui, j'insiste. Allez, Michael, un petit effort.
Les micros et moi ne sommes pas amis.
Voilà, on avait compris.
Donc, chaque année, nous proposons deux types de cours. Des cours pour des vrais débutants et pour les faux débutants. Mais en réalité, depuis 5 ans, nous n'avons que de faux débutants. Mais cette année, nous proposons encore la possibilité de cours pour vrais débutants aussi. Donc, est-ce que ça marche?
Très bien, c'est parfait. Okay. Continuez comme ça, ne lâchez rien.
Alors, que veut dire vrai débutant? C'est vraiment quelqu'un qui n'a jamais pratiqué l'anglais ou a suivi des cours au collège il y a très longtemps et a tout oublié. Les faux débutants sont des gens qui ont pratiqué l'anglais un peu, qui ont suivi des cours à un niveau satisfaisant, ou, et certainement, les gens qui ont suivi un cours avec moi, avec l'UTB, sont faux débutants. Alors, mais vous avez la chance de venir pour expérimenter, pour venir au premier cours, pour voir si c'est fou pour vous ou pas. Mais je crois que c'est une bonne idée, si vous avez cette intention, d'en informer l'UTB pour qu'on ait une idée du nombre d'étudiants. Alors, il est important de préciser que ces cours ne ressemblent pas à un cours de collège ou un cours de lycée. C'est-à-dire, nous n'avons pas un manuel de grammaire avec une progression, le temps du présent des verbes, etc., etc. Nous le faisons plutôt à partir d'une amélioration de votre connaissance de la culture anglophone. soit britannique, américaine, australienne, etc. Et pour cela, nous faisons plusieurs choses différentes. Par exemple, nous allons lire des articles tirés de magazines ou des journaux, etc. Et cela, c'est pour comprendre le sens, bien sûr, mais aussi pour augmenter votre vocabulaire, pour découvrir de nouvelles méthodes d'expression, de nouvelles tournures d'expression en anglais. Et bien sûr, avec ces articles, ces extraits de journaux, par exemple, vous apprendrez mieux la culture d'où viennent ces articles. Une autre chose, c'est que nous regardons des vidéos, parce que j'ai une parabole qui capte la télévision britannique, et je peux apporter les DVD, et nous regardons chaque fois un DVD, par exemple sur les arts, le sport, la politique, des choses comme ça. Et la méthode, c'est de regarder 5 ou 6 minutes sans interruption, et je poserai des questions après pour savoir combien vous avez compris. Et puis, après cela, on coupe le même passage en petits morceaux, parce que chaque fois, j'apporterai une vidéo avec sous-titres en anglais, pas en français. Et nous étudions le vocabulaire, la grammaire, les styles d'expression du présentateur. Bien sûr, il y aura quelques exercices de grammaire. C'est nécessaire. Parfois, je reçois des demandes des gens qui me disent « Ah, je vais aller en Angleterre ou aux États-Unis très bientôt et je voudrais avoir quelques cours d'anglais, mais pas de grammaire, juste de conversation. » Et maintenant, je suis très strict parce que je dis apprendre une langue sans comprendre la grammaire ne marche pas du tout. Donc, il y aura des exercices de grammaire, mais ça, c'est seulement une petite partie du cours. Donc, un cours typique consistera en une petite conversation au début. Donc, je parlerai de quelque chose que j'ai fait pendant la semaine, et on aura des questions, des réponses, etc. Puis, on fera un petit exercice de grammaire, suivi d'une lecture d'un article, et puis on finit en regardant une vidéo. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose?
Non.
Non, miraculeusement, je crois que c'est tout.
Bravo, Michael. Alors, voilà, merci, hein. Au revoir. Donc, ensuite, on a une autre catégorie de personnes, c'est ceux qui ne doivent pas aimer Michael et qui ne veulent pas aller à l'école. Ce qu'on appelle la conversation anglaise, c'est-à-dire des personnes qui se sentent suffisamment à l'aise pour soutenir une conversation, même d'une façon malhabile ou lente, avec des anglophones de langue maternelle, comme lui, hein. Mais on en a d'autres, hein. On a quelques personnes qui vivent dans la région et qui nous sont fidèles et qui viennent discuter de tout et de rien. J'avais lancé ça il y a 10 ans et le système fonctionne toujours. Donc, on se réunit une fois par... peut-être Pagnon veut dire quelque chose, voilà. Alors, le responsable, c'est Michel Pagnon, qui va vous expliquer dans le détail comment ça se passe. Vous voyez que l'activité principale, c'est de boire des...
On croirait qu'on fait que boire des canons, hein, mais c'est peut-être pas... ça fait partie, effectivement, des moments de convivialité, mais il n'est pas nécessaire d'être super fort en anglais, c'est pas le cas pour la plupart. Ce sont simplement des gens qui ont eu l'occasion de pratiquer l'anglais pendant leur activité professionnelle et qui veulent conserver un minimum. Et puis, des gens qui ont l'occasion aussi de se rencontrer, donc avec, comme le disait le président, avec des anglophones de naissance. Nous en avons une sixaine qui sont très, qui sont toujours très fidèles. On espère pouvoir encore recruter quelques-uns de nouveaux, pourquoi pas.
Alors, si vous en connaissez, vous les amenez chez nous.
Nous avons des gens
c'est
qui
gratuit.
Sont...
Voilà.
Donc, évidemment, à la différence du cours d'anglais officiel, c'est gratuit. Ça se passe à l'IUT. Je pense que ça continuera à se passer à l'IUT. L'intérêt aussi, il n'y a pas de problème de parking. Donc, c'est en principe tous les mercredis en fin de journée de 17h15 à 18h45. Quoi dire d'autre? Donc, bon, j'espère cette année qu'on pourra attirer à nous quelques jeunes étudiants étrangers qui doivent venir pour comme assistants dans les lycées. Les années précédentes, on a eu l'occasion de les avoir. Après, pour toute espèce de raison, on a perdu un peu le contact. J'espère cette année avoir retrouvé un contact. Maintenant, encore faut-il qu'ils soient intéressés à venir nous rencontrer. Bon, l'an dernier, on a eu des gens. On a failli, à l'IUT, il y a aussi un groupe de conversation qui est organisé par le professeur d'anglais, mais bon, on a pris la en cours d'année, on ne connaissait pas avant. On verra cette année si on peut faire quelque chose de ce côté-là. Voilà.
Donc, merci. Merci. Donc, oui. Si vous connaissez des anglophones de langue maternelle qui ne connaissent pas, ils sont les bienvenus à l'UTB. Voilà.
Ben vous pouvez déjà venir le 5 octobre. Après, il y aura des inscriptions. Ça, on va vous expliquer. C'est important aussi qu'on sache un petit peu qui vient, etc. Mais le 5 octobre, vous pouvez venir. Je pense que la plupart des anciens sont là. Et vous verrez comment ça se passe. Et en une première fois, peut-être les gens sont un peu déçus. Parce qu'effectivement, si on est trop nombreux, c'est difficile que tout le monde puisse se connaître. Mais sinon, bon, ça se passe bien, hein. Non, le 5 octobre, vous pouvez venir déjà.
Non, oui.
Et on vous donnera les instructions pour autant que vous soyez adhérent à l'UTB.
Voilà. Bien, allemand. Alors, c'est un prof d'anglais qui va nous parler d'allemand. Mais bon, on est très mobile. Hein? Toi, t'es pas allergique au micro.
Pas du tout. Voilà. Nicole Kasprit n'étant pas disponible aujourd'hui pour des raisons personnelles, elle m'a fait un petit papier que je vais vous lire avec l'intonation. Voilà. En allemand, il existe actuellement deux groupes qui se succèdent le mardi matin, au même endroit forcément, et il est donc possible de passer du groupe 1 au groupe 2. Si vous trouvez que le groupe 1 ne va pas assez vite, vous pouvez passer au groupe 2. Si vous trouvez que le groupe 2 est trop difficile, vous pouvez passer au groupe 1. Ça se fait sans problème. Le lieu, c'est le lycée Saint-Charles, à la Colombière, où il est facile de se garer. Parking privé du lycée, bon, c'est pas très compliqué de se garer. En général, on se gare, là, pas de souci. Alors, le deuxième groupe est un groupe intéressé de niveau intermédiaire avancé. Il est plus facile de suivre dans ce groupe depuis que nous avons un manuel. Alors là, au contraire, on a un bouquin. Alors, l'avantage du bouquin, c'est que ça permet de travailler d'un mardi à l'autre. Et je peux vous dire que Nicole s'en prive pas de nous donner du travail. Alors, c'est un manuel qui a été choisi parce qu'il contient des documents actuels et intéressants. C'est vraiment un truc, c'est pas un manuel pour jeunes gens, c'est un manuel pour adultes. Ça permet de revoir la maison et aussi de s'entraîner tout seul. À signaler, les participants d'un atelier de langue sont là avant tout pour se parler. C'est valable aussi en anglais, en espagnol et je pense en chinois. Toute participation à la conversation est digne d'intérêt, même si les gens sont de niveaux différents. Et alors, je peux vous dire une chose, en tant que prof de langue, faire des fautes quand on parle une langue étrangère, c'est vraiment pas un problème. Sachez que nous en faisons des fautes en français, les Anglais en font en anglais et les Allemands en font en allemand. Bien sûr, les Français en font en français. Liliane peut en témoigner abondamment. Ce qu'il faut, c'est que ce soit un loisir et un plaisir. Et effectivement, on forme un groupe assez sympa. On se connaît donc, enfin, le groupe dont je fais partie, on se connaît depuis 3 ans et on s'entend très bien. Il n'y a pas d'évaluation et ni de compétition permanente entre nous. Bon, forcément, il y en a qui sont plus bavards que d'autres. C'est comme dans partout, il y en a qui lèvent la main tout le temps, hein. Et puis il y en a qui n'osent pas trop la lever. Mais bon, on les encourage à prendre la parole. Si vous voulez vous inscrire cette année, il serait préférable de commencer par le premier groupe, ce qui vous permettra d'évaluer votre niveau et votre capacité à progresser, même si ensuite vous passez dans le deuxième groupe, celui de 10h30. Oui, c'est 9h, 10h30 pour le premier groupe, 10h30 midi pour le deuxième. Midi, midi 10, midi 20, quand Nicole est lancée, on ne l'arrête pas. Dernière chose, il est impossible de suivre dans un groupe si on n'a jamais fait d'allemand. Alors ça, ces deux groupes dont je vous parle, premier et deuxième, ne sont pas pour les vrais débutants. Parce qu'en allemand, il y a quand même une base grammaticale, alors en anglais, il y en a une forcément, mais en allemand, elle est costaud. Hein. Donc si on ne la connaît pas du tout, c'est très très difficile de faire une phrase. C'est pour ça que ça rebute les gamins au collège, parce que l'allemand, on est obligé de commencer par les fondamentaux, je dirais méchamment un petit peu comme en latin, mais alors qu'en anglais, on peut bredouiller 2-3 conneries, ça passe. En allemand, ça passe pas. Enfin, ça passe. Ça passe mal.
Ça passe, hein, pas, ça passe pour mal. Les profs.
Mais disons que on entend parfois des gens parler anglais. Si vous avez un Mexicain et un Italien qui parle anglais dans...
C'est l'anglais.
C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose, hein. C'est du globish, hein.
Voilà.
Mais ils arrivent à se comprendre. Alors qu'en allemand, ça marche pas. En allemand, ça marche pas. Donc le premier groupe pourrait être un groupe débutant, ouvert aussi aux personnes qui n'ont jamais fait d'allemand, ce qui leur permettrait de bien débuter. Et qui, alors là, il me semble qu'elle s'est un petit peu pris les pieds dans le tapis, notre Nicole, parce qu'en réalité, il y a deux groupes, un groupe de, donc c'est des faux débutants, hein, un groupe de gens qui sont à l'aise, et ce qu'elle envisage, si le nombre d'inscrits est suffisant, c'est de faire un troisième groupe de vrais débutants, qui commenceront par les genres. Der, die, das, et la déclinaison du nom au singulier. On ne peut pas y échapper. Hein. Ceux qui ont fait du latin ou du grec se rappellent qu'on ne peut pas y échapper.
Bon. Jean-Paul.
Oui, Yves. Je coupe. Ben, je n'ai pas fini. Hein. Je compte sur vous tous pour relayer l'information. Création possible d'un groupe débutant en allemand, parce qu'il y a peu d'offres. Effectivement, il n'y a pas d'offre allemand débutant sur Chalon. Il y a l'offre de faux débutants, mais pas de vrais débutants. Pour en savoir plus, vous pouvez participer au pot d'accueil. Alors, le pot d'accueil, c'est sans alcool. Hein, rêvez pas. C'est sans alcool, mais par contre, il y a des petits gâteaux, qui aura lieu le 11 ou le 18 octobre. Informez-vous auprès du secrétariat de l'UTB. C'est un mardi. La date définitive sera dans le bulletin d'octobre. Prévenir de votre présence... Hein, si vous, parce que c'est un pot d'accueil, vous venez, vous regardez, si ça vous plaît, vous inscrivez, si ça ne vous plaît pas, vous rentrez chez vous. Hein, on ne va pas vous forcer. Nous vous espérons nombreux cette année et à très bientôt. Signé Nicole.
Merci. Je ne vais pas respecter l'ordre parce que notre chinois de service a une contrainte d'emploi du temps. Donc, voilà. Oui, recommence dans l'autre sens. Hein. Donc Jack Beugnot nous est fidèle depuis des années. Voilà.
Ah, c'est... Elle enseigne l'allemand. Une chose dégueulasse. Donc, voilà. Donc, Donc, Van Han Yoriz, le chinois est très intéressant. Bohan Yoriz, pas très facile. Le problème d'accent en général. Hein. Je peux très bien dire le bon mot, même avec le bon accent, il y a 30 significations différentes, suivant que vous l'écrivez. Donc, il faut connaître le pin, la prononciation avec les accents, avec 4 accents. Il y en a même 5, parce qu'il y a une absence d'accent. Autrement, moi personnellement, j'ai fait du chinois parce que j'ai commencé, comme kinésiste, à m'intéresser à l'acupuncture, les méridiens, etc. Après, j'ai fait du tai chi chuan pendant 20 ans, avec application martiale. Je suis allé en Chine 5 fois.
Donc, il n'est pas encore capable de faire les cours. Donc, la dame qui nous fait les cours, c'est Xiaohong Poré. Hein, donc, c'est une Chinoise de Chine qui a épousé un ancien collègue à moi et qui, a accepté. Elle donne des cours également au devoir. C'est pour ça qu'elle n'est pas là cet après-midi, parce qu'elle est à l'école. Elle donne des cours de chinois. Hein, voilà. Et donc, il y a un noyau. Donc, si vous êtes courageux, il faut être courageux hein, pour le chinois. Mais c'est intéressant, c'est passionnant. Moi, j'ai fait pendant 2 ans. Je suis courageux, mais j'ai pas le temps. Donc, j'ai arrêté. Voilà. Bon, merci, Jack. Ça veut dire merci. Hein. Voilà. Ni hao. C'est bonjour. Non, mais je vous cite mon niveau de chinois. Hein. Voilà. Bien, donc on revient dans l'ordre. Merci Jack. Alors maintenant, on passe à l'espagnol. Monsieur Romero.
Messieurs, dames, bonjour. Donc je suis nouveau, je m'appelle Philippe Romero. J'ai une petite quinzaine d'années d'expérience en tant que professeur, formateur. Et je vous propose donc des cours d'espagnol où les vrais débutants sont accueillis à bras ouverts. Les vrais débutants n'ont pas à craindre de venir débuter, car contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure de l'allemand, l'espagnol est une langue d'abord très simple et on peut s'exprimer facilement et converser assez rapidement dans cette langue-là. Voilà. Donc j'invite les gens à ne pas craindre du tout de venir sans n'en avoir jamais fait auparavant.
Je vous coupe un petit peu, je vais faire un commentaire général qui a déjà été fait. Tout le monde est invité sans inscription à la première séance pour que vous puissiez vous rendre compte, d'abord si le professeur vous plaît, et deuxièmement, si ça correspond à ce que vous souhaitez faire. Hein, donc, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Voilà.
Donc, j'ai cette particularité d'avoir appris à parler en espagnol. C'est ma langue maternelle, en fait. Je suis de naissance française, c'est pas très loin, le Creusot. Et j'ai appris le français à l'école maternelle, avec mes petits camarades. Donc voilà, tout ça pour vous dire, je suis effectivement de langue maternelle espagnole, malgré ma francitude fondamentale. Voilà. Je pense orienter ces cours vers quelque chose d'à la fois studieux et ludique, hein, dans une ambiance... on va dire quasi espagnol, hein. On va pas faire la fête tout le temps, mais voilà, il fait quelque chose d'assez détendu. Il est bon dans ce genre de cours, me semble-t-il, d'avoir des contenus à la fois socio-culturels, pour satisfaire des curiosités d'histoire, de littérature, d'art picturaux, tout ce que vous voudrez, Ceci dit, la progression linguistique représentera quand même une importante part du contenu, axée sur des savoirs assez pratiques, des choses opératives. Car nombre d'entre vous aimeraient certainement partir en voyage en Espagne ou éventuellement en Amérique du Sud. Et à mon sens, dès qu'on débute, il faut savoir commander une bière. Voilà.
Cerveza.
Donc les cours sont prévus donc le mercredi à 10h et ce sera à partir du 23 novembre. Tiens, je pensais que c'était la semaine précédente, mais okay,
voilà.
Ce sera.
Alors, voilà un des cours que l'on qui était déjà, parce qu'on a déjà fait une tentative il y a 2 ans, un des cours qu'on va faire dans nos locaux du site Saint-Georges. Alors, je rappelle pour ceux qui sont nouveaux à l'UTB, nous sommes maintenant 30 rue Saint-Georges. On n'est plus à l'Espace des Arts. Je le redis pour la énième fois. Voilà. Merci, Monsieur Ormeron. Alors, chinois, italien. Alors, l'italien. Alors, Madame Godichon est absente également. Donc, Monsieur Bocquet, qui est un de ses fidèles étudiants, va vous faire la présentation de l'atelier.
Alors, je vois qu'il est prévu un cours d'italien débutant. Oui. C'était pas le cas. Enfin, moi, j'ai participé à un cours d'italien débutant il y a 8 ans. Et ce groupe est dit aujourd'hui le groupe intermédiaire. En fait, sur la dizaine de personnes que nous étions dans le groupe intermédiaire l'année dernière, plus de la moitié étaient des débutants du groupe d'il y a 8 ans. Et dans ce groupe intermédiaire, en fait, ça se passe de la façon suivante. C'est beaucoup axé sur la conversation. Et en général, on commence pratiquement pendant le premier tiers de la séance, ça consiste à raconter chacun ce qu'on a fait dans la semaine, en essayant de trouver des choses un peu originales. Et puis ensuite, en général, on travaille sur un document en commun, souvent des articles de presse, des revues, etc. Et puis environ un tiers de la réunion, ou peut-être pas tout à fait, 20 minutes, sont consacrés à la présentation par l'un des participants à préparer à l'avance un sujet dans le domaine qu'il veut, pas forcément lié à l'Italie, alors que les documents sur lesquels on travaille sont toujours liés à la culture italienne, à l'histoire, à la géographie de ce pays. Aux coutumes, tandis que le sujet qu'on choisit, alors on fait un planning en début d'année, chacun propose le sujet sur lequel il veut travailler, et bon, par exemple, on a eu quelqu'un qui nous a parlé du facteur cheval, vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'Italie, hein, ou des sujets divers et variés. Mais on les travaille en italien, on soumet le texte par avance à Madame Godichon qui nous retourne en nous disant là il y a des erreurs grammaticales, donc on essaie de les corriger tout seul, et puis après quelques échanges par mail, on finit par se mettre d'accord sur un texte correct, et c'est celui-là qui est présenté et qui ensuite est envoyé, le texte écrit est après la séance est envoyé à tout le monde. Voilà comment ça fonctionne. C'est très, très, très agréable. Le groupe est convivial. On se retrouve, on se connaît. On travaille. Alors, dans son papier, elle a mis qu'on travaillait sur des chansons. C'est pas tout à fait vrai, quand même. Le texte des chansons, oui, quelquefois. Mais on n'a pas encore un concours de chant. Bon, il y a quand même de grands domaines. De chansons qui concernent la langue italienne, pratiquement 80 ou 90% des opéras, hein, pour ceux que ça peut intéresser. Donc voilà comment se passe le groupe intermédiaire. Alors j'ai entendu qu'il y avait des avantages dans d'autres groupes qui sont le stationnement. Le groupe intermédiaire, il est à l'IUT le mardi soir.
C'est les donc, privilégiés.
Donc on peut d'ailleurs donc plus facilement stationner que le groupe du mercredi matin à la rue Saint-Georges. Et d'ailleurs, on a eu l'an dernier une personne qui est un transfuge du groupe du mercredi, dit le groupe avancé, je crois, ouais, le groupe avancé, uniquement pour les raisons de stationnement, elle a changé de groupe. Bon, et apparemment, elle n'est pas très dépaysée dans notre groupe où on est censé être un petit peu en dessous, en niveau. Alors le groupe avancé, il a la particularité de travailler, alors apparemment il existe depuis plus longtemps, et il avait la particularité de travailler à l'origine sur un livre que tout le monde lisait, et il travaillait sur ce livre. Et puis depuis 2 ou 3 ans, en fait, il travaille sur un sujet pour toute l'année que Madame Godichon ne veut pas dévoiler à l'avance. Donc je ne peux pas vous dire sur quoi va porter cette année. L'an dernier, ça a été sur la Sicile. Donc la Sicile. Alors en fait, là, chacun des élèves, des stagiaires, prend une partie du sujet. Par exemple, l'un va prendre l'histoire de la Sicile, l'autre va prendre les problèmes de volcanisme, l'autre va prendre le patrimoine architectural.
La mafia. Etc.
La mafia, voilà, oui, donc tout y passe. La mafia, ça fait pas peur. D'ailleurs, moi, dans un des cours, j'avais choisi de parler d'Al Capone, vous voyez, donc... C'est pas la mafia sicilienne. Et donc, voilà, je pense que sur le groupe...
Bon, merci, Monsieur Bocquet.
On va accélérer,
donc on passe à la dictée.
Merci. Bonjour. Donc, la dictée, elle existe depuis... Enfin, cette activité existe depuis 2009... Donc j'ai déjà tout un groupe d'adhérents fidèles qui, j'espère, ne vont pas me quitter en plein vol comme ça. J'invite de nouveaux adhérents à nous rejoindre 2 lundis par mois, le premier et le troisième. Nous faisons des dictées assez traditionnelles, c'est pour ça que ça s'appelle dictée d'autrefois. L'an dernier, on avait commencé un cycle épistolaire. On va le continuer avec Georges Sand cette année, parce qu'il faut revenir à la vraie littérature et aux femmes littéraire, hein, et voilà, lundi, je vous attends, lundi 3 octobre à 10h au site Saint-Georges. C'est tout.
Merci. Alors, je vais quand même ajouter un commentaire, j'espère flatteur. Une fois la dictée faite, s'il vous plaît, voilà.
Donc on fait la dictée comme on faisait à l'école, on la corrige, comme on faisait à l'école aussi. Je ne me préoccupe pas de qui a fait combien de fautes, ni de notes, etc., etc. Quand nous avons corrigé la dictée, j'envoie à chacun des participants le texte corrigé, avec ce que Annie Levé, qui est absente cet après-midi, appelle le tourne-autour, c'est-à-dire la biographie de l'auteur, c'est-à-dire le point de grammaire soulevé par le texte. Alors, le grand truc, c'est les participes passés, quand même, il faut bien le dire. Plus ils sont difficiles, meilleurs ils sont. Et quand tout ça est fini, j'envoie aussi le texte corrigé et son tourne-autour sur le site UTB, et donc c'est consultable par n'importe qui regarde le site.
C'est ça que vous vouliez ajouter ?
Voilà, et merci pour tout ça. Voilà, voilà. Oui, question. Oh, oh.
Ce n'est pas une question, c'est juste une remarque. Je suis le seul
à la groupe lecture, Madame Coffin.
Alors, le groupe lecture se réunit le troisième jeudi du mois, d'octobre à mai, de 9h30 à 11h45, sauf pendant les vacances. Nous nous réunissons au site Saint-Georges, 30 rue Saint-Georges. Cette année, nous étudierons les auteurs suivants. Stefan Zweig, qui est de nationalité anglaise, mais d'origine autrichienne. Svetlana Alexeyevitch, qui est biélorusse, Christian Bobin, français, Alessandro Barrico, italien, et Serge Chalandeau, français. La personne qui a choisi l'un de ces auteurs nous présente sa biographie. Les autres participants auront lu l'un ou l'autre ouvrage de cet auteur, un échange se fait alors autour de la table. Notre première séance, le 13 octobre, sera consacrée à nos lectures de vacances. En janvier, nous parlerons des prix littéraires de 2016. Et le mois de mars sera consacré au printemps des poètes. Notre séance ayant lieu le matin, nous pouvons ensuite déjeuner ensemble. Mais naturellement, ce n'est pas obligatoire.
Merci. Alors, Françoise Piau pour la littérature. Alors, j'explique un petit peu la différence entre la lecture et il m'a fallu au moins 8 ans pour la comprendre. Donc, je vais faire le test. Donc, oui, ben, vous branchez. Oui, la technique va venir. Hein. Donc, la littérature, c'est de l'Antiquité à nos jours. La lecture, c'est le XXe siècle.
Voilà, c'est ça.
Pour faire court. Voilà. Voilà.
Bon, mais qu'est-ce qu'il me reste à dire ?
Non, ben si, voilà.
Qu'il ne faut pas que vous ayez peur, parce que le mot littérature, ça fait fuir. Et ça ne devrait pas. La littérature, c'est la vie, c'est l'amitié, c'est l'humanité.
C'est une passion, c'est une passion.
Et c'est une passion, pour certains. Oui, et c'est vrai que notre groupe est très chaleureux, amical, et que nous étudions évidemment des œuvres qui peuvent faire peur. Alors je suis responsable de la première, donc fuyez. C'est moi qui avais décidé de faire lire ou relire, parce qu'en fait, c'est pas réservé aux profs de français. Et certains découvrent, d'autres relisent, mais tous nous apprenons quelque chose. Et donc j'avais choisi, parce que je suis une vieille prof de lettres classiques, j'avais choisi Virgile pour ouvrir l'année. Je me suis dit, oh là là, ça commence bien. Alors ne venez pas à la première séance si vous êtes rebuté par la littérature. Ensuite, alors littérature, des œuvres classiques, mais aussi des œuvres classiques dont on se demande au fond pourquoi elles ont traversé 2 millénaires pour Virgile, plusieurs siècles pour d'autres. Et pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'elles sont restées ? Et d'autres œuvres qui n'ont pas la même, évidemment, ancienneté, la même importance, mais que quelqu'un parmi nous a trouvé intéressant et peut-être susceptible de devenir une de ces œuvres-là plus tard, si la Terre existe encore. Voilà. C'est tous les premiers lundis du mois. Et ça sera... Oh, j'aime pas ce truc, moi non plus. Hein. Et ce sera rue Saint-Georges, au premier étage. Voilà.
Merci beaucoup. Merci. Oui, oui.
Nous n'avons pas d'informations sur le prix.
Parce que c'est gratuit.
Non, alors je redis...
On va vous payer pour venir, au contraire.
Je redis le principe, c'est payant quand nous rémunérons un animateur. Donc essentiellement les langues et l'informatique. Pour le reste, si ce sont des groupes de travail ou conviviaux, eh bien c'est le plaisir qui vous unit. Et dans la gratuité la plus totale, voilà. Alors, dans la gratuité, encore une fois, il faut être adhérent du TB. Hein. C'est ce qui a été dit par certains des prédécesseurs. Alors, groupe patrimoine écrit de Bourgogne. Alors, c'est moi qui vais faire, donc Françoise n'est pas là. Donc, cet atelier a été créé il y a plus de 10 ans. Et l'idée était d'essayer d'éditer des œuvres oubliées qui ont une relation avec la Bourgogne. Alors, on a fait des choses très variées, comme le voyage sur la Saône un voyage sur la Saône de Amerton, voilà. Donc, c'est un récit de voyage. Et on a fait également des biographies de bourguignons célèbres, ou moins célèbres, puisqu'on a fait, par exemple, Viré, qui est qui a fait construire la sous-préfecture, enfin c'est l'hôtel de Viret, on a fait Philibert Guide, on a fait Lazare Carnot récemment, etc., etc. Donc ce sont des recherches historiques, et ce que l'on essaye, il y a le mot écrit dans le titre du groupe, c'est-à-dire que la personne qu'on étudie a eu une contribution à caractère littéraire, soit historique, soit littéraire au sens classique du terme. Alors, ce qui est le cas par exemple de Lazare Carnot, ce qu'on ne sait pas, on le connaît comme homme politique, comme homme politique, mais il a eu une contribution littéraire significative, comme tous les hommes du XVIIIe siècle, il savait tout faire. Hein, il faisait des maths, il faisait de la littérature, il faisait de la politique. Aujourd'hui, la contribution littéraire de nos hommes politiques, elle est mineure, on va dire. Hein, voilà. Bon, c'est un autre sujet. Alors, le thème qui a été choisi et qui a déjà commencé, c'est le comte de Rambuteau. Alors, Rambuteau, c'est un nom qui doit vous dire quelque chose. C'est un gars qui est d'origine mâconnaise, et c'est le prédécesseur d'Haussmann à Paris. Et il y a une station de métro qui s'appelle Rambuteau. Et en fait, les grands travaux qu'on appelle haussmanniens, comme souvent dans l'histoire, ont été faits aux deux tiers par Rambuteau. Et Haussmann, il est venu, il a décroché la timbale, si vous voulez. C'est comme Jules Ferry, machin. Jules Ferry, il est arrivé au bout d'un processus qui était déjà largement entamé dans des ministères précédents. Donc, il se trouve en fait que, ça avait été choisi un petit peu comme ça, mais il y a eu une opportunité qui s'est rajoutée, qui est que la famille de Rambuteau, il n'y a pas de biographie du comte de Rambuteau, ça n'existe pas, il n'y a que des mémoires qu'il a écrites lui-même, et dont on dispose, et la famille du comte de Rambuteau a accepté de nous ouvrir ses archives personnelles qui sont non éditées. Donc ça va être un travail original, et à mon avis très intéressant. Donc l'objectif, c'est de terminer ça à la fin de l'année prochaine. Alors, en général, maintenant, ce que l'on a fait, parce que ce groupe-là était le moteur d'une nouvelle activité à l'UTB, c'est l'édition de livres. Puisque maintenant on a la possibilité technique, si vous voulez, de faire des livres à petit tirage et qui sont faisables par des amateurs tout en ayant un prix qui ne soit pas astronomique, avec la technique de la photocopie, si vous voulez, hein, photocopie de production. Et on se sert chez NEC, vous savez, sur la place de Beaune, et grâce à notre production éditoriale qui est importante mais pas gigantesque, mais il y a une demande de plus en plus forte, et donc ils ont investi dans une machine qui permet de faire les couvertures, et donc maintenant on a un fournisseur local, chalonnais, qui nous permet de faire des livres en petit tirage. Alors par contre, il faut qu'en amont, nous, bien sûr, on fait la composition du livre au sens de mise en page et de relecture, mais également on fait la couverture, on fait la composition graphique, on insère les images, enfin, on devient meilleur de jour en jour. Et c'est une activité éditoriale. Et là, on a une de nos bénévoles, Marie-Jeanne Michel, qui est présente dans la salle, là, qui a accepté, à ma demande, de s'occuper de la promotion commerciale, c'est un mot qui fâche dans une association, de la promotion des ventes de nos ouvrages. Parce que quand ça sort, bon, on vend, hein, par le réseau des libraires, par nos propres réseaux de vente, et puis après ça s'épuise assez vite, et donc si on n'a pas une action permanente de promotion des ventes, eh bien il nous reste pas mal d'invendus sur les bras. Donc voilà l'activité Groupe Patrimoine Écrit de Bourgogne. Donc ce qu'il faut aimer faire, là, c'est de la recherche historique et savoir écrire. Alors là, il faut peut-être être passé avant à l'atelier d'écriture, mais il faut avoir, bon, faut savoir écrire, au sens avoir un certain style. Bon. De toute façon, les relectures sont faites en commun, et là, il y a des critiques constructives entre les participants pour qu'on améliore le mieux possible la qualité rédactionnelle des textes. Un groupe économie et géopolitique, eh bien, c'est un peu la même formule que les groupes littérature ou lecture, mais sur le thème économie et géopolitique. Donc, on travaille sur soit des livres, soit des articles de journaux, et on discute. Il y a une personne qui a choisi un thème, avec, tous ensemble, et on dit, ben, la séance prochaine, on va parler de la BCE, on va parler des problèmes de change, on va parler du libre-échange, on va parler du traité de libre-échange avec les États-Unis, ou des choses comme ça. Alors, on n'est pas des spécialistes de l'économie, on est des économistes amateurs, mais on lit des articles, on lit des ouvrages et on les commente ensemble. C'est toujours intéressant. Et d'avoir des points de vue, vous savez qu'en économie, on a eu une conférence très intéressante l'an dernier qui disait « Les économistes sont-ils nuls ?» hein? Et donc c'est un économiste qui nous a fait la séance, qui était très bien d'ailleurs, et qui montre que l'économie est une science exacte. C'est l'usage qu'on en fait qui est discutable, si vous voulez. Donc, bienvenue au groupe Économie. C'est gratuit, pareil, il n'y a pas de professeur. Donc, c'est la même formule que les groupes littérature et lecture. À groupe Éthique et Société, Monique, je t'en prie. Tu causes en micro. Là. Oui.
Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, on va être deux. J'invite Jean-Pierre à venir avec moi aussi. Voilà, alors, notre groupe est un groupe qui travaille sur des problèmes de société qu'on choisit de façon collégiale. On se réunit une fois par mois. En principe, jusqu'à présent, c'était le lundi, mais il est question que ce jour se modifie, soit le mardi, soit le jeudi. Il faut justement que l'on décide de cela de façon collégiale aussi avec le groupe à la première réunion. Dans ce groupe, ce qui est important, c'est l'éthique, bien sûr, dans le thème qui va être choisi de façon collégiale chaque année. Et la convivialité est mise, tout comme la courtoisie, de façon à ce que dans tous nos dialogues et nos débats, suite à l'exposé des thèmes, enfin du sujet choisi par chacun sur le thème de l'année, il y ait une tolérance et un respect de l'autre. Voilà. Alors, les participants potentiels doivent savoir utiliser Internet parce qu'on communique beaucoup par email. Ils doivent faire un exposé aussi par an, toujours pareil, à l'intérieur du thème de l'année. Chacun choisit le livre qu'il veut à résumer pour le groupe. Après le résumé fait, l'exposé terminé, il y a un débat. Ce débat se fait également... avec une certaine, ce n'est pas pour que ce ne soit pas le désordre complet et que tout le monde se chevauche en parole, il y a bien sûr une sorte de modérateur, on va dire, pour que chacun parle les uns après les autres et pas tous ensemble.
Comme à la télé.
Voilà, comme à la télé. À la télé, je ne suis pas sûre que ça soit aussi convivial. C'est plus convivial dans notre groupe qu'à la télé.
C'est mieux qu'à la télé, elle a dit.
Oui, c'est mieux qu'à la télé. Ouais. Ensuite, alors, oui, c'est ce que je voulais dire. C'est donc une petite discipline, celle pour l'agrément de tous, le respect de la parole de l'autre qui s'exprime dans un temps aussi mesuré, puisqu'il faut bien qu'il y en ait un petit peu pour tout le monde. Ce groupe existe depuis 8 ans et pour l'instant, nous avons commencé à 6 ou 7 et maintenant nous sommes à 18 ou 19.
Il n'y a pas eu de mort jusqu'à présent.
Personne. Voilà, pas de cadavre pour l'instant. Alors, Jean-Pierre a bien voulu témoigner de ce qu'il a vécu dans notre groupe depuis déjà deux ans. Voilà, il va vous dire lui ce qu'il en pense de l'intérieur.
Merci, bonjour à toutes et à tous. Oui, au début j'étais un peu inquiet, je me suis dit je vais me retrouver sur un strapontin à France Culture, oh, ça va être dur, je ne sais pas ce qui va se passer, enfin bref. Et puis donc tout doucement je me suis trouvé très très bien, bien accueilli déjà, d'autant que je n'ai pas du tout suivi le cursus littéraire, ni j'ai fait les humanités, moi j'ai passé par la technique, donc vous voyez que j'étais loin du sujet.
Nul n'est parfait.
Hein ?
Nul n'est parfait.
Nul n'est parfait, non, voilà. Et donc très bien accueilli, et j'ai trouvé justement que ces discussions étaient fort intéressantes, d'écouter, de participer aussi, parce que justement on a droit à la parole, et toujours avec beaucoup de courtoisie, beaucoup de respect de l'autre. Et ça, ça m'a vraiment séduit, et d'autant que le groupe est vraiment multiculturel. Alors là, on vient de tous les bouts, pas de tous les âges malheureusement, parce que tout le monde est presque retraité. Presque, c'est dommage. Mais autrement, c'est vraiment sympa, et j'étais reçu là-dedans, et je peux vous dire que j'attendais chaque fois le coup suivant, quoi. Alors bien entendu, ça vous oblige à travailler. De temps en temps, effectivement, ça nous oblige à bosser sur un sujet et aller s'exprimer devant un auditoire qui est de très, très bonne qualité. Mais a priori, on ne s'est jamais moqué de moi encore. Voilà, c'était sympa. Voilà, et ben, faut que ça continue. Voilà, rejoignez-nous parce que vraiment, c'est sympa.
Les salles sont plus grandes, on peut accueillir encore un peu plus.
Et vraiment, c'est intéressant. Et là, on écoute vraiment des opinions qui viennent de tous azimuts, quoi. C'est ça, je crois, le gros intérêt de l'affaire. Et le sujet de l'année, là ? Vous n'avez pas parlé. Sujet de l'année.
Les grandes migrations humaines à motif économique ou politique et le partage du bien commun. Voilà.
Donc évidemment, c'est un sujet d'actualité.
On se réjouit parce qu'on va se régaler. Ça va être très intéressant. C'est très intéressant. Voilà. Alors, je vais donner un tout petit détail sur ce que Jean-Pierre vient de dire au niveau sur le plan multiculturel.
Parle bien dans le micro.
Il y a dans notre groupe, il y a des personnes de toute idée religieuse ou athée. Il y a aussi des personnes de toute idée politique. Ça ne pose absolument aucun problème, toutes ces différences. Le but, justement, c'est d'arriver à s'entendre et à se respecter malgré toutes nos différences, parfois extrêmes, mais ce n'est pas un problème. Et plus on se connaît, plus on s'apprécie avec nos différences. Et c'est ça qui est très riche et très agréable dans ce groupe. Voilà.
C'est parfois un peu vif, quand même, hein ? Bon, faut dire, mais c'est bon. Merci. Venez nous rejoindre.
Alors, la marche. Madame Joly, vous marchez. Madame Joly, vous parlez de la marche.
Alors, bonjour à tous. Jean-Pierre Gros n'est pas là aujourd'hui pour raison de vacances. Donc, voilà, il m'a chargé de vous parler un petit peu de la marche. Rassurez-vous, il va revenir. Il sera là dès le mois d'octobre pour nous emmener sur les chemins de Bourgogne. Donc, ce groupe marche fonctionne deux fois par mois, les lundis après-midi, les deuxième et quatrième lundis de chaque mois. Un petit groupe d'une dizaine de personnes fait la reconnaissance le lundi précédent. Et ensuite, vous avez toutes les informations pour pouvoir nous rejoindre, pour vous joindre à cette marche. Alors, pour pouvoir participer, donc pour être membre de ce groupe marche, il faut que vous soyez inscrit. Pour des raisons de sécurité, il faut donc passer au secrétariat et apporter un certificat médical attestant que vous n'avez pas de contre-indication majeure pour la randonnée. Et puis, on vous demandera aussi 2 euros pour la participation à la prise d'assurance que l'UTB prend chaque année en début d'année. Voilà. Les marches ont lieu dans un rayon d'une demi-heure maximum autour de Châlons. On s'arrange pour covoiturer quand les gens n'ont pas de véhicule. On se retrouve ici, donc à la maison des syndicats. Ou quand les gens veulent partir du lieu de la marche, au départ de la marche. C'est à votre choix. Sinon, que dire, que ces marches sont très demandées. Enfin, on était l'an dernier, en gros, 70 adhérents. On ne marche jamais à 70 parce que bon, les gens ne sont pas tous disponibles au même moment, mais on est... en gros, une quarantaine à marcher à chaque sortie. Ce qui peut freiner aussi certains, ce sont les conditions climatiques, quelquefois. Donc, voilà, on s'est retrouvé à certaines marches avec une dizaine seulement, parce que, voilà, la pluie étant là, oui, voilà, c'était pas très motivant. Mais bon, ce qui intéresse les gens, en fait, c'est un petit peu bon, déjà faire une activité physique, parce que ben, l'UTB, c'est essentiellement
la tête et les
intellectuel.
Jambes, mais là, c'est les jambes.
Donc, voilà. Et puis, bon, on a un contact, je dirais, dans ce groupe. On marche, mais on parle. Donc, on fait connaissance avec d'autres membres de l'UTB. On va dans des chemins qu'on ne connaît pas. C'est un petit peu la découverte de la région, bien que ce ne soit pas des marches où on fait des visites. Hein. On va passer devant des châteaux, mais on ne va pas les visiter. C'est essentiellement de la promenade, en fait. Alors, ces promenades, elles sont entre 10 et 14 kilomètres. Hein, c'est relativement court. On compte 3 heures, 3 heures et demie. On part d'ici vers 13 heures. Du lieu de départ de la promenade vers 13h30, et on est revenu vers 17h, 17h30 ou plus tard. Voilà. Alors, la première marche aura lieu le 10 octobre aux environs de Montrouge. Elle doit faire 10,5 km, je crois. On va la reconnaître le 3 octobre. Hein. Donc, vous aurez toutes les informations à ce moment-là. Et la suivante, le 24. Et le 24, ce sera aux alentours de Cul-les-Roches. Ces marches aussi sont classées par niveau de difficulté. C'est-à-dire que dans certaines marches, on a quand même pas mal de dénivelé, donc c'est classé une croix, deux croix, trois croix en fonction de la hauteur du dénivelé. Et puis, il est conseillé quand même d'avoir des bonnes chaussures, de prendre des bâtons si vous en avez. Quelquefois, ça peut être utile pour les descentes. Et puis, d'avoir un vêtement de pluie, d'être équipé quand même pour marcher. Voilà. Comment ? Alors, l'heure de départ, c'est soit ici à 13h, soit à 13h30 sur le lieu de départ de la marche. Mais on vous demande aussi, au moment de l'inscription, un email. Et le jeudi, en général, Muriel envoie un message à tous les membres de ce groupe marche avec tous les détails, le lieu de rendez-vous exact du départ de la marche. Et puis, en cas de vraiment intempérie grave, si la marche doit être annulée, on envoie un email au plus tard vers 11h à tous les membres du groupe. Voilà. Mais bon, cette année, on n'en a pas annulé une seule. Hein. Donc, on a quelquefois marché avec un temps pas terrible, mais on a marché. Voilà.
Bien, merci Madame Joly. Donc, on a presque tenu le timing. Les voyages culturels, donc vous savez que nous proposons des voyages qui ont peu ou prou un rapport avec des thèmes qui ont été abordés dans les conférences. Alors, ce que l'on essaye de faire, c'est d'avoir des voyages un petit peu spécifiques. Sinon, les agences de voyages classiques sont très bien, c'est pas la peine de passer par l'UTB. À part d'être entre personnes de l'UTB. Donc on fait faire des voyages un petit peu à la carte, bien sûr avec des agences de voyage. Voilà. Alors, donc on a un programme prévisionnel. Donc depuis quelques années, on fait un sondage, surtout pour les grands voyages, pour sentir si le nombre de personnes qui sont intéressées, si vraiment pour des projets qu'on imagine, on sent qu'il n'y a pas une demande très forte et c'est pas la peine. Comment ? Comment ? Bon. J'ai pas compris le commentaire. Où ? Ah oui, d'accord, oui, c'est avril 2017, oui, il y a une faute. Oui, vous avez corrigé vous-même, c'est 2017. Hein. Ah, comme je vois que tout le monde est attentif, je vais faire ça en temps réel, pour éviter les commentaires acidulés. Voilà. Voilà, alors, voilà. Ça vous va comme ça? Bien, donc voilà la liste des projets que nous avons pour l'année qui vient. Je ne les commande pas plus que ça. Si vous voulez, l'idée, c'est que pour ces grands voyages, c'est des voyages à gros budget. Donc tout le monde ne peut pas, se permettre ces choses-là. Donc il faut qu'on s'y prenne très longtemps à l'avance pour, prendre des inscriptions. Donc, au pire la fin 2016 ou tout début 2017, dans les bulletins, on vous décrira ces voyages et on vous demandera de vous inscrire en payant une avance. Puisque les gens, c'est facile de s'inscrire sans rien payer, mais quand le jour vient, il n'y a plus personne devant le guichet. Voilà. Donc, on fera sûrement pas tout cela, mais voilà les études qui sont déjà bien avancées, qu'on va peaufiner pour les grands voyages. Pour les petits voyages, enfin les sorties d'une journée, on va dire. Donc, les maisons de Pasteur à Arbois et Dole, les climats de Bourgogne, il y a tout ce qu'il faut dans la région. Musée Ampère et Musée Lumière à Lyon, puisqu'il y a une conférence sur le sujet. Les mondes polaires à la Moura, puisqu'il y a un musée qui se construit, enfin qui se reconstruit à la Moura. Neuchâtel-la-Chaux-de-Fonds avec M. Saccaro, Chantilly et Coin, et l'usine Écossea à Chagny. L'usine Écossea, c'est l'usine de traitement des déchets qui est à côté de la tuilerie de Chagny. Hein. Voilà. Et puis, si on a d'autres opportunités, bien sûr, on les rajoutera, mais ça, c'est plus facile parce qu'on peut prendre les inscriptions. On fait le voyagiste nous-mêmes, si vous voulez. On a juste à louer le bus et ça va bien comme ça. Alors, le processus d'inscription, c'est surtout pour les grands voyages, il faut vraiment, vraiment suivre le processus d'inscription et pas se réveiller à la dernière minute, comme encore cette année pour le voyage à Cuba où il y a une dame qui a découvert 2 mois avant le départ que le voyage existait. Alors qu'on l'a dit sur tous les tons, sur tous les médias, elle n'avait pas vu. Elle s'est inscrite. Et elle va faire le voyage. Lisez bien le bulletin. Lisez bien tout. On l'annonce verbalement, sur Internet, dans les mails, sur le bulletin mensuel. Si vous êtes intéressé par les voyages, soyez attentifs. Ce n'est pas sur la première page, c'est dans les pages qui suivent. Alors, on fait également de temps en temps des cafés-débats, on en fait moins ces temps-là parce que les sujets s'y prêtaient moins, mais en fait maintenant on fait plutôt des colloques avec une petite collation légère, parce que ça, c'était compliqué d'organiser ça en ville dans un bistrot. Et les inscriptions aux activités, je vais terminer par ça. Alors, ça, je ne l'avais jamais expliqué les années précédentes. Et c'est surtout valable pour les personnes qui ne connaissent pas l'UTB. Dans le bulletin d'octobre, il y a 3 ou 4 pages qui ressemblent à ce que vous voyez là, qui sont sur la gauche, le descriptif très simplifié de l'atelier en question. Et de l'autre côté, un petit papillon qui dit ben moi je suis intéressé par je suis monsieur machin ou madame truc, je donne toutes mes coordonnées et je suis intéressé par cet atelier, j'envoie le papillon et le chèque qui va avec. Soit vous venez au secrétariat, mais préparez déjà le papillon avant. Donc le papillon, ça veut dire quoi? Ça veut dire avec une paire de ciseaux, vous découpez dans le papier la petite bande où il y a le descriptif de l'atelier et de l'autre côté le nom, le prénom et les coordonnées. Ça fait 10 ans que je suis là, on n'y arrive pas. Et les dames font du ciseau au secrétariat du matin jusqu'au soir. Il y en a certaines qui sont là et qui peuvent en témoigner. Donc, faites un petit effort pour faire ce système d'inscription. Ça permet de gagner du temps, si vous voulez, après, pour intégrer tout ça dans notre base de données, dans nos systèmes informatiques. Sinon, ça devient c'est très complexe à gérer. Et voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Donc, tout ça va être décrit d'une façon extensive. Donc cette présentation, je la mets sur le site comme tous les ans. Les présentations enregistrées sont également sur le site. Et, in fine, l'expérience que l'on a depuis 10 ans, puisque ça fait quand même 10 ans qu'on a vraiment étendu significativement le nombre d'ateliers, puisqu'on est passé de 4 ou 5 à 19. Donc on est arrivé à notre capacité de gestion de la diversité qui est... Muriel ne peut pas en prendre plus, si vous voulez, c'est pas possible. Donc, mais l'expérience montre que les gens qui participent aux ateliers sont tous très contents. On en a eu les témoignages par la convivialité, finalement, et l'interaction entre les gens. En dehors de l'intérêt spécifique de l'atelier, les gens sont intéressés par se connaître et puis à participer à une activité qui leur plaît en commun, si vous voulez. Voilà, je vous remercie. Et pour de nouvelles aventures, pour une nouvelle saison de l'année UTB. Voilà. Alors, vous rendez... Alors, on considère qu'on ouvre l'Assemblée Générale Extraordinaire et qu'on la ferme tout de suite. C'est-à-dire que vous rendez votre bulletin de vote à l'accueil pour qu'on en fasse la comptabilisation. Merci.